Vous écoutez RTL.
Tout de suite sur RTL, on s'intéresse aux perdants, aux vaincus, aux grands vaincus de l'histoire. Bonjour Jean-Christophe Bisson.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes écrivain, journaliste, directeur adjoint du Figaro Magazine. On vous retrouve régulièrement sur RTL avec Marc-Olivier Fogiel dans Orphée le Monde. C'était hier, hein ?
Hier.
Il n'y a pas plus tard qu'hier. On va commencer par une petite liste comme ça, non exhaustive forcément, des grands vaincus de l'histoire.
Oui, alors on a décidé avec Emmanuel Hèche de faire un panorama, on en a choisi 13, c'est un chiffre qui porte la poisse, ça tombe bien puisqu'on parle de gens qui sont des perdants. On a essayé de brasser un petit peu toutes les époques, tous les continents, tous les sexes, puisqu'il y a des hommes et des femmes, Cléopâtre et Jeanne d'Arc sont deux grandes perdantes, mais l'Antiquité, on a pris Hannibal, Vercingétorix, à l'époque moderne, Montezuma, ce grand empereur aztèque qui est à la tête d'un pays de millions d'habitants et qui s'effondre devant 60 cavaliers et 300 soldats menés par Cortés, c'est quand même assez invraisemblable. L'époque moderne, le grand Condé, le duc de Guise, Charette pendant la Révolution, et puis l'époque contemporaine, des gens comme Trotsky, Nixon, vous voyez, on est très très éclectique, il y a des gens de gauche, il y a des chefs d'État, il y a des révolutionnaires, il y a des républicains, il y a des rois, il y a des princes. L'idée, c'est d'arriver à trouver aussi un fil rouge entre toutes ces figures-là, déterminer comment la plupart d'entre eux ont été des grands vainqueurs à un moment donné et se sont effondrés et sont devenus des vaincus. Et c'est intéressant de trouver le mécanisme psychologique, militaire, politique, social qui fait que quelqu'un qui est au fait de sa gloire, par des erreurs, par des trahisons, par des faiblesses, par un goût de la démesure, d'un seul coup s'effondre et devient un vaincu dans l'histoire.
Jean-Christophe Bisson, ces grands vaincus de l'histoire dont vous dressez le portrait dans un livre publié aux éditions Perrin. On en a choisi deux que vous allez découvrir jusqu'à 15h. On commence avec Vercingétorix. Justement, à tout de suite les curieux sur RTL.
RTL.
En 50 avant Jésus-Christ, nos ancêtres les Gaulois avaient été vaincus par les Romains après une longue lutte.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les chefs, tels que Vercingétorix, doivent déposer leurs armes aux pieds de César.
La curiosité est un vilain défaut.
Toute la Gaule est occupée.
Un extrait d'Astérix, forcément, pour lancer cette séquence consacrée à l'un des grands vaincus de l'histoire, Vercingétorix. On est avec le journaliste Jean-Christophe Bisson. On aime bien ça dans la curiosité sur RTL. Jean-Christophe, on pose le décor, comme on dit. Qui est Vercingétorix, on va le rappeler, et surtout, quand a-t-il vécu?
Alors, Vercingétorix est né en 80 avant Jésus-Christ. C'est intéressant parce que c'est le fils d'un grand chef gaulois qui a été exécuté par les Gaulois, parce qu'il avait essayé de fédérer des tribus gauloises contre l'envahisseur et l'occupant romain.
Déjà.
Son héritage, c'est celui-là. Ce qu'on oublie toujours, c'est qu'à 20 ans, il est parti, comme la plupart des enfants de chefs gaulois, à Rome, se former.
Par César
lui-même. Ils ont même partagé la même tente, à un moment donné, en tout bien, tout honneur. Ouais. Mais c'était une tradition. On prenait des chefs de tribus gauloises, on les formait de telle sorte qu'on se disait que plus tard, ils ne se rébelleraient pas, justement, contre Rome. Et Vercingétorix ne va pas le faire. Dès 53 avant Jésus-Christ, sa carrière est très courte. C'est un an de combat vraiment effréné contre Jules César. En 53, il arrive à rassembler toutes les tribus gauloises, qui sont très indisciplinées. Certaines collaborent volontiers avec les Romains. D'autres voudraient être neutres. D'autres voudraient combattre. Et il arrive, une cinquantaine de tribus gauloises, à les réunir ensemble et se dire on va bouter le Romain hors de la Gaule transalpine.
Donc face à Vercingétorix, il y a César, son ancien mentor, son ancien prof, on peut dire, ou coach même quasiment, on dirait aujourd'hui. Il règne depuis longtemps, César ?
Alors il règne pas vraiment, puisqu'à l'époque on est encore sous la République et le Sénat a nommé un triumvirat qui dirige Rome, composé de Pompée, Crassus et César. Et César a évidemment l'ambition à un moment donné d'éliminer ses deux rivaux pour prendre le pouvoir et peut-être restaurer quelque chose qui ressemblerait à un empire ou une monarchie. Et pour ce faire, eh bien, il décide de conquérir la Gaule, une partie de la Germanie, et il va même jusqu'en Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre actuelle, pour revenir à Rome, auréolé de toutes ses victoires et s'imposer contre ses adversaires. Donc il a vraiment intérêt à ce que la Gaule soit bien pacifiée, bien organisée, sous sa férule, et évidemment Vercingétorix va être le caillou dans la chaussure.
Il y a une formule qu'on emploie pas mal depuis 3-4 jours sur RTL et dans tous les médias, c'est Gaulois réfractaires.
Mais qu'est-ce que c'est ?
Merci Emmanuel Macron de nous fournir une partie de notre émission dans la curiosité, on est en plein dedans, c'est-à-dire occuper la Gaule, c'est pas simple pour.
Non, parce qu'il a grosso modo 50 000 hommes, 60 000 hommes pour diriger ce pays qui est composé de plusieurs millions d'habitants, qui n'est pas un pays, encore une fois. Encore, ouais. Donc il a réussi à diviser les Gaulois entre eux qui n'ont plus de chef, de roi, comme ils l'ont eu dans un ancien temps à leur tête, mais ce sont plutôt des tribus avec des magistrats à la tête. Et Vercingétorix, encore une fois, a réussi à convaincre la plupart des magistrats de ces tribus de se réunir derrière lui, sans être proclamé roi, mais une sorte de chef naturel qui s'est imposé par des victoires
parce
militaires.
Parce qu'il y a de l'exaspération contre
l'occupant. Oui, parce qu'on se dit que Rome exploite les richesses de la Gaule, même si certains font du commerce avec Rome, il y a des impôts, évidemment, il y a une occupation, il y a un peu de patriotisme qui est en train de naître, on ne sait pas encore que c'est du patriotisme, mais ça ressemble à ce que sera la France. Et donc, il arrive à convaincre les Gaulois de se mettre derrière lui et d'essayer de chasser César de la Gaule.
Jean-Christophe Buisson, le match entre César et Vercingétorix se joue à Alésia, on l'a tous appris à l'école, c'est en 52 avant notre ère. On vous nous rappelait quand même, en bon professeur, c'est où Alésia et c'est quoi la situation militaire?
Alors Alésia, une toute petite polémique sur le lieu exact, mais grosso modo, c'est le village d'Alès-Sainte-Reine qui se trouve en Côte d'Or, au nord-ouest de Dijon aujourd'hui, qui était un plateau au pied du mont Auxois. Et Vercingétorix a attiré en fait les troupes de César dans ce lieu-là. Parce que sa stratégie pour combattre la meilleure armée du monde quand même, même si elle est moins nombreuse évidemment que la sienne, c'est de s'installer dans une ville fortifiée et de attirer comme ça César et de faire venir des troupes derrière qui vont prendre en tenaille les troupes de César. Et donc César construit autour d'Alésia une forteresse, des palissades, des fossés pour assiéger Alésia.
Ça veut dire qu'ils meurent de faim, ça veut dire qu'ils ont
exactement,
plus rien
à l'intérieur,
manger,
ils prennent le risque d'attendre des semaines et des semaines que les renforts arrivent avec les Romains qui sont autour et qui vont être pris en tenaille. Sauf que les 250 000 hommes attendus tardent beaucoup à venir et que petit à petit, à Alésia, on meurt de faim, on meurt de soif. Certains commencent à dire bah, on va peut-être se rendre à César parce qu'on n'y arrivera pas, on est en train de mourir. Et Vercingétorix tient bon, dit non, on reste jusqu'à que les troupes arrivent.
Mais si on se met là, dans ce village d'Alésia, ils en arrivent à mâcher, à manger quoi?
À manger ce qu'ils trouvent, du cuir, du harnais, comme au siège de Leningrad dans la Seconde Guerre mondiale. Ouais. On mange n'importe quoi, on mange ce qui reste, c'est-à-dire plus de nourriture. On dit même qu'il y aurait des scènes de cannibalisme. Mais cette stratégie a été une réussite quelques mois auparavant à Gergovie. La bataille de Gergovie, qu'on a entendue, elle a été remportée par Vercingétorix grâce à cette stratégie très particulière qu'il a apprise d'ailleurs, qu'il a apprise à Rome. Parce que les Romains ont fait ça à Agrigente dans des siècles précédents. Donc encore une fois, c'est l'éducation romaine qui permet à Vercingétorix de tenter de combattre Jules César par ses propres armes.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Et toi, Monty?
Je ne suis pas ton petit.
Ah.
La curiosité est un vilain défaut.
Je suis Vercingétorix.
Un nom lourd à porter.
Jusqu'à 15h.
César va venir nous assiéger.
Sur RTL.
C'est trop risqué. Il sait que nous avons une immense armée.
Il le sait. Et je crois que c'est ce qu'il va faire.
La curiosité, c'est jusqu'à 15h sur RTL, de la science, de la nature, des sagas musicales, de l'histoire, des grands destins. Tout ça au menu tous les jours de notre émission. On se passionne aussi pour les grands vaincus de l'histoire avec le directeur adjoint du Figaro Magazine, Jean-Christophe Buisson. On entendait un extrait du film Vercingétorix avec Christian Lambert. On est
Christophe.
Autour... J'ai dit quoi ?
Christian.
Oui, parce que Christian...
Oui, pourrait,
c'était
hein,
à
mais
peu près son
Christophe.
Prénom, mais voilà. C'était pas vraiment son prénom.
Vous avez pas mal de lettres. Hein.
Alors que Vercingétorix, vous avez remarqué Thomas,
on l'a tous bien
on
dit.
Le dit super bien. C'est un bel exercice d'orthophonie. On évoquait la défaite de Vercingétorix contre César à Alésia en 52 avant notre ère. D'ailleurs, que se serait-il passé si Vercingétorix avait gagné cette bataille?
Alors ça, c'est très compliqué à valoir. Uchronie. Effectivement, ce serait une uchronie. Les Gaulois étant à cette époque déjà, allais-je dire, très indisciplinés, il n'est pas sûr que Vercingétorix aurait réussi à fédérer sur son nom et restaurer une sorte de monarchie parce qu'encore une fois, ces tribus gauloises tenaient beaucoup à leur autonomie, leur indépendance locale, et si elles étaient unies contre l'envahisseur romain, sans doute elles n'auraient pas réussi à trouver d'accord pour constituer un État, comme ce sera le cas une dizaine de siècles plus tard avec les Capétiens en 987.
Bon, on va rapidement raconter la défaite pour garder du temps, pour expliquer ce qui s'est passé après ce calvaire, ce destin funeste de Vercingétorix. Comment les Gaulois perdre cette bataille d'Alésia?
Mais ils la perdent parce qu'encore une fois, ces troupes de renforts arrivent un petit peu tard. Ouais. 250 000 Gaulois quand même, qui viennent de partout, qui viennent de l'Armorie, qui viennent de l'Est de la France, qui viennent de l'Aquitaine, qui viennent du Sud-Ouest, de partout. Mm-hmm. Ils arrivent et là, sans doute, Vercingétorix fait une petite erreur stratégique. C'est-à-dire que il les déploie tout de suite sur le champ de bataille. Il n'attend pas de les installer, de dire il faut en mettre un certain nombre ici, un certain nombre ici. Il les envoie tout de suite dans la bataille. Et il y a trois batailles successives qui se déroulent, dont une de nuit, et qui sont, il y en a deux qui se terminent, pour aller vite, par un match nul, et la troisième qui est une catastrophe pour les Gaulois, parce que les Romains, ils ont un atout qui s'appelle la cavalerie germaine. Ils ont vaincu une partie de la Germanie, et ils ont fait, ce sera ça qui les coulera d'ailleurs, les Romains, ils ont intégré à l'intérieur de l'Empire romain des tribus pour leur qualité militaire, et un certain nombre de tribus germaines, qui sont d'excellents cavaliers, attaquent les Gaulois, qui sont aussi d'excellents cavaliers, mais de moins bons cavaliers. Et ça, Vercingétorix ne l'avait pas prévu, et pas prévu ce renfort de ces milliers de cavaliers romains qui vont massacrer l'infanterie gauloise.
Tout à l'heure, Jean-Christophe Buisson, vous nous disiez qu'il y avait un point commun, une sorte de fil rouge entre tous ces grands vaincus de l'histoire. Là, ça serait quoi le défaut de Vercingétorix qu'on peut retrouver dans d'autres grands vaincus? C'est la précipitation, l'arrogance, la trop grande confiance en soi?
Oui, et puis la trahison. La trahison parce qu'il y a un certain nombre de Gaulois qui ne l'ont pas suivi jusqu'au bout, notamment les Éduins qui depuis des décennies collaborent plutôt avec les Romains qui leur ont apporté du commerce, de la richesse. Les Éduins ne se battent pas jusqu'au bout en pressentant que s'ils perdent, la punition va être terrible. Donc ils commencent à se désister, certains à rentrer chez eux. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, les bandes dessinées de Goscinny et Uderzo sont remarquables pour ça, parce que l'air de rien, ils restituent vraiment des réalités historiques qui sont qu'ils n'ont pas encore de sentiment national, encore une fois. Donc, se battre pour Vercingétorix qui finalement va sans doute restaurer la monarchie à son compte, bah, si c'est pour être puni si on perd, non, ça vaut pas le coup.
Et donc, Vercingétorix et les Gaulois perdent cette bataille d'Alésia. Le calvaire va durer 6 ans.
Ouais, ça va être terrible.
Ça commence par quoi? Il suit César, c'est ça, au départ?
Voilà, César l'emmène pendant un an ou deux avec lui dans toutes ses batailles à la poursuite de Pompée, puisque ça y est, il a entamé sa grande rivalité contre Pompée. Donc il le traîne derrière lui, c'est son prisonnier, une sorte d'otage qu'il garde en permanence. Et puis après, il le met dans un cachot, sans aucune lumière.
À Rome,
dans un cul de basse-fosse dans lequel il va rester près de 4 ans, sans voir la lumière, sans avoir évidemment d'informations d'extérieur, dévoré par les araignées, par les bestioles.
Pourquoi César n'élimine pas Vercingétorix?
Parce qu'il attend de le faire défiler dans Rome au moment de son triomphe. En 46 avant Jésus-Christ, il fait un triomphe pour montrer aux Romains, et notamment au Sénat romain, « Regardez, je suis le meilleur d'entre vous, j'ai vaincu Pompée du côté de l'Espagne, j'ai vaincu le roi de Numidie, j'ai vaincu l'Égypte avec cette Arsinoé qui était la rivale de Cléopâtre, puisqu'il s'est installé, comme vous le savez, un peu en couple avec Cléopâtre. Mmh. » Et donc, il fait défiler tous les vaincus dans ce qu'on appelle un triomphe.
Et Vercingétorix, c'est un peu le clou du spectacle. Il est juste derrière César?
Il est juste derrière César, ouais. Enchaîné avec une barbe de 4 ans d'âge, donc vous imaginez, on dirait un pop orthodoxe, des cheveux qui n'ont pas été coupés, il est sale, il n'a pas vu le jour depuis 4 ans, donc il est à moitié aveugle, et il se traîne, et à un moment donné, César continue dans le forum vers le Capitole, et on envoie Vercingétorix d'un autre côté, vers un endroit dans lequel il va être étranglé avec un lacet et exposé, ce qu'on appelle voué au gémonique, d'un endroit où on expose comme ça la victime, et puis après on va jeter son corps dans le Tibre, et il va se faire manger par les petits poissons.
Donc l'expression vient de la voué au gémonique.
Exactement.
C'était un escalier à Rome, c'est
exactement.
Ça
exactement, du bas de l'escalier, il est exposé comme ça pendant des semaines en pleine chaleur.
La curiosité continue sur RTL avec la guerre de sécession, et l'un de ses héros, c'est le général Lee, on le croyait invincible, et pourtant c'est bien la défaite qu'il attend à Gettysburg en 1863. Restez avec nous les curieux.
RTL.
Alors dites-moi, mon cher prisonnier sudiste.
La curiosité est un vilain défaut.
Vous n'avez rien à déclarer?
I'm a charger.
Si? Ah, si nous autres les sudistes, on avait été plus nombreux, eh bien vous autres les nordistes, vous auriez bel et bien pris la pâtée.
I'm a general Lee.
Jolly Cash, General Lee, pour lancer cette séquence. On continue de se passionner avec Jean-Christophe Buisson, le directeur adjoint du Figaro Magazine, autour de ces grands vaincus de l'histoire. La guerre de sécession, le général Lee, on est dans les années 1860. Avant de raconter son histoire, il faut dire d'un mot que c'est toujours un objet de polémique, le général Lee. On l'a vu à Charlottesville, vous nous rappelez ce qui s'est passé autour d'une de ses statues, c'est ça?
Oui,
on est aux États-Unis,
il faut le dire. Il est redevenu parce que dès la fin de la guerre de sécession, ce n'était plus un sujet de polémique. C'est-à-dire très vite, le général Grant, qui était son grand adversaire, qui l'a vaincu, est devenu président des États-Unis, et ils ont fait la réconciliation entre Nord et le Sud. C'était une guerre civile atroce. Ouais. Donc très vite, le général Lee a été réhabilité, et dans les années 1970, le président Ford, d'ailleurs, lui a rendu tout son statut, sa situation. Et il faut se souvenir qu'il y a des chars, des sous-marins, des bateaux qui portent le nom de général Lee, des dizaines et des dizaines de statues plutôt dans le sud des États-Unis. Il y a même une série des années 80, je ne sais pas si vous vous souvenez, Sheriff fais-moi peur, la voiture s'appelait général Lee, c'est une Dodge. Ouais. Donc c'était quelque chose d'assez acquis. Sauf que le général Lee, ayant été le général sudiste, donc des États esclavagistes, est devenu un symbole de fierté pour les suprémacistes blancs, le Ku Klux Klan, toute l'extrême droite américaine qui a repris du poil de la bête ces derniers mois. Mmh. Et lorsque une ville, Charlottesville, qui est une grande ville sudiste, a décidé de ôter la statue de General Lee parce que la mairie en avait décidé ainsi, eh bien, il y a eu une manifestation des suprémacistes blancs et il y a eu mort d'homme. Il y a une personne, une femme plutôt, qui a été tuée par un de ces suprémacistes et ça a recréé une polémique. Et d'un seul coup, le pauvre General Lee, qui encore une fois avait été considéré parce que c'est un tel beau vaincu, comme quelqu'un qui n'était pas un monstre, et d'ailleurs c'était pas un des pires esclavagistes, loin s'en faut, et bien est redevenu un sujet de polémique aux États-Unis.
Alors on va raconter son histoire, on a quelques minutes devant nous, Jean-Christophe Buisson. Comment il devient le héros du Sud, des armées du Sud, le général Lee?
Alors général Lee, c'est un Virginien pur sucre d'une grande famille qu'on dirait aristocratique, même s'il n'y a pas eu d'aristocratie évidemment aux États-Unis, mais qui hésite beaucoup au moment où la guerre de sécession commence entre le Nord et le Sud, parce que le Nord veut imposer l'abolition de l'esclavage dans le Sud, pour des raisons évidemment morales, mais aussi culturelles, mais aussi économiques, mais il serait trop long d'en parler. Et le général Lee ne sait pas très bien quoi choisir. C'est un militaire, il a fait la campagne du Mexique, c'était vraiment un très bon soldat, qui a plutôt fait carrière dans le génie. Il n'a pas du tout envie de faire la guerre contre son propre pays, donc contre le Nord, mais en même temps, il ne veut pas abandonner le Sud, sa famille, ses amis. Donc finalement, il va se rallier à l'armée du Sud, mais dans un premier temps, il est simplement conseiller du président des Confédérés, donc de ceux qui ont fait sécession.
Mais c'est un grand stratège militaire.
Et c'est un stratège militaire. Il va se révéler un grand stratège militaire. Il va commencer à remporter des victoires, notamment en 1862, à bousculer vraiment les armées nordistes, à tel point que le président Davis du Sud va décider d'en faire le général en chef. Mmh. Et là, il va prendre des décisions, peut-être par goût de la démesure, c'est ce qu'on a dit, mais sûrement parce qu'il veut imposer, par des victoires spectaculaires au Nord, un traité de paix, parce qu'il sent son armée, c'est des va-nu-pieds, ce qu'on appelait les misérables, en référence à Victor Hugo. C'est une armée faite de briques et de brocs face aux armées du Nord qui sont beaucoup plus structurées, qui ont des armes techniques beaucoup plus importantes. Il sait que, grosso modo, il va perdre. Et il se dit, si j'empiète sur le territoire du Nord de manière totalement inattendue, je vais les surprendre, ils vont avoir peur de perdre et ils vont accepter un traité de paix. Et c'est ce qu'il tente et c'est ce qui va lui coûter cher, puisque il va perdre dans cette bataille de Gettysburg en 1863, qui est vraiment le tournant de la guerre civile américaine.
Et donc le Sud, pourquoi le Sud a perdu? C'est la guerre en fait qui change de nature en quelque sorte.
Oui, vous avez raison, change de nature, parce qu'encore une fois, le Nord, c'est le Sud, c'est à 85%, sont des régions agricoles, il n'y a quasiment pas de grandes villes. Le Nord, c'est Washington, c'est New York, c'est les grandes villes qui ont beaucoup plus d'armement, de technique. Ils font un blocus maritime sur les États du Sud. Donc il y a ces moyens qui annoncent, il y a des massacres, vraiment des massacres, des batailles qui font des milliers de morts pendant la guerre civile américaine. Des batailles qui annoncent 14-18, qui annoncent les batailles de tranchées, qui annoncent l'horreur absolue que seront les guerres du XXe siècle. Et le Sud, avec ses pauvres pétoirs qu'ils ont entre les mains et leurs chevaux et leurs charrettes, ils ne font pas le poids. Mais quand même, le général Lee, pendant 4 ans, va tenir tête. Il va épuiser 5 généraux nordistes en face de lui, avec ce génie militaire qui le caractérise et qui suscite effectivement l'admiration de son vainqueur, du général Grant.
Ouais. D'un mot, c'était un général proche de ses troupes, le général
Très
Lee.
Proche de ses troupes. Il partageait leur vie quotidienne. Il dormait avec eux dans la tente. Il était toujours sur son fidèle cheval qui s'appelait Traveler au milieu de la bataille, au point qu'on est obligé de le retirer en disant « Mais non, là, vous allez prendre un obus bêtement, mon général. » Et lui, il voulait vraiment être le proche de ses hommes. Ouais.
Voilà, et son destin en détail est à lire dans votre livre, Jean-Christophe Buisson, « Les grands vaincus de l'histoire », publié chez Perrin, coécrit avec Emmanuel Hecht. Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt sur RTL avec Marc-Olivier Fogiel ou dans La Curiosité.
C'est la fin de cette curiosité. N'hésitez pas à nous partager avec vos amis et vos ennemis, des vainqueurs et des vaincus, ça vaut le coup, sur RTL.fr.
Bon week-end à tous. Merci à toute l'équipe de La Curiosité, Coralie Lutinier, Perrine Suquet, François Touchard, Bastien Robin, William Gay-Costa et Morgane Nenner.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.